bénédiction. Et je ne peux pas vous exprimer combien je suis heureux d'être ici avec mon épouse, Maxime, qui est dans l'auditoire ce soir. C'est vrai qu'il y a 22 ans que nous sommes venus à Genève pour un cycle de conférences et nous sommes très heureux de nous retrouver dans cette belle ville. Genève a toujours été pour moi, même longtemps avant de venir la première fois, une ville qui suscitait beaucoup d'intérêt. On voyait que c'était une ville très internationale dans un sens, et je pense qu'elle l'est toujours. Il n'est pas souvent que j'ai l'occasion, ces jours-ci, de parler en français. Mon travail est plutôt en anglais. J'écris pas mal en français toujours. Donc je vous demande votre patience, votre indulgence, si quelquefois j'hésite pour trouver un mot, ou bien si quelquefois je prononce mal un mot français, mais je vais faire de mon mieux et j'espère que vous allez profiter de ce que nous avons à préparer pour ce soir. Je pense que nous avons parmi nous quelques personnes qui sont venues suite à la publicité qui a été distribuée dans la ville. Si tel est le cas, nous voulons notamment vous accueillir parmi vous ce soir et nous prions le Seigneur de vous donner une bénédiction pour récompenser votre déplacement. Les choses qui comptent, très souvent on ne sait pas réellement ce qui a de valeur dans ce monde. Les gens sont tellement confondus parfois, il y a tant de distractions. Il y a tant de choses, il y a tant d'appels auprès des âmes. Il est difficile parfois de réellement savoir quel doit être notre premier intérêt, quelle doit être la chose qui nous préoccupe plus que toute autre chose dans la vie. Et je voudrais ce soir entamer en lisant la parole de Dieu avec vous, citant des textes bibliques, un sujet qui, à mon sens, est la plus importante au monde. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il y a tant de malheurs sur la terre, pourquoi il y a tant de souffrances, tant de guerres, tant de conflits? Je ne pense pas que Dieu l'a voulu. Je pense que Dieu a voulu qu'il en soit tout à fait autre. Quand il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, à l'image de Dieu. Et s'il a créé l'homme à son image, il a voulu que l'homme jouisse d'un bonheur suprême. D'ailleurs, lorsqu'il a placé l'homme sur la terre, dans le jardin d'Éden, il l'a entouré de toutes les félicités possibles. C'était un jardin de délices. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de malheur. Il n'y avait pas d'affliction dans le jardin d'Éden. C'était un véritable paradis. Mais Dieu a créé l'homme à son image afin que Dieu, que l'homme puisse répondre à son amour. Oui, il a créé les cieux, la terre, tout ce qui nous entoure. Mais toute autre partie de la création de Dieu n'a pas de volonté personnelle. Oui, les astres, les planètes circulent dans leurs orbites d'une manière tout à fait involontaire, parce qu'ils font ce que Dieu leur a créé de faire. Mais l'homme est une créature différente. En ce que l'homme peut choisir, l'homme peut obéir ou ne pas obéir. Il peut rendre l'amour de Dieu ou il peut refuser cet amour. L'homme est libre. Et bien que nous ne voyons pas dans la parole de Dieu précisément que Dieu a voulu créer un être qui répondrait à son amour et à sa volonté volontairement, parce qu'il a voulu avoir ce rapport avec un être qui pouvait exprimer son amour. Mais j'ai l'impression, en lisant la parole de Dieu, que si l'homme répond à l'amour de Dieu, si l'homme se soumet volontiers à la volonté de Dieu, que cela donne à notre Seigneur, à Dieu, beaucoup plus de satisfaction que ne lui donne le soleil qui tourne ou qui allume la terre, ou la terre qui tourne autour du soleil. C'est une merveille lorsque nous voyons comment la création fait la volonté de son créateur. Mais lorsque l'homme répond personnellement, volontairement, à la volonté de Dieu, cela lui donne certainement beaucoup plus de satisfaction. Un homme peut créer une machine qui serait capable de répondre à tout ce que l'homme avait en tête dans la fabrication de cette machine. Et la machine répond exactement à tous les principes et accomplit tout ce que l'homme qu'il a inventé a voulu. Mais si cet homme a aussi des enfants qui répondent à son amour, qui se soumet volontiers à la volonté du Père, j'estime que ses enfants lui donnent beaucoup plus de satisfaction que ne lui donne la machine qui a été créée par l'homme et qui fait exactement ce que la machine a été fabriquée pour faire. Et Dieu aussi a voulu que l'homme réponde à son amour. Mais il y avait autre chose. L'homme a été placé sur la terre avec un seul commandement. Dieu a commandé à l'homme, lui a dit qu'il pouvait manger de tout ce qui était dans le jardin, de tout arbre, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il lui dit que s'il mangerait de cet arbre, il mourrait. Nous ne savons pas combien de temps l'homme est resté dans le jardin sans désobéir à Dieu. Mais nous savons qu'il y avait un autre qui voulait défaire l'œuvre de Dieu, qui voulait détruire ce que Dieu avait fait. C'était un adversaire à Dieu. Le nom Satan veut dire adversaire. Il y a une lutte entre les forces du bien et les forces du mal. Une lutte âpre, une lutte amère qui se fait sur un plan cosmique. Ici sur la terre, nous sommes entrés un peu dans l'enjeu. Et l'homme pouvait choisir d'obéir à Dieu ou il pouvait choisir aussi d'obéir à Satan. Et Satan s'est insinué dans le jardin d'Éden sous forme d'un serpent. Et il a parlé d'abord à Ève et lui a demandé si Dieu leur avait défendu de manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Et Ève dit non, nous pouvons manger de tous les arbres, mais seulement de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous ne pouvons pas manger. Et Satan lui a dit, Dieu sait que si vous mangez de cet arbre-là, vous deviendrez comme lui, vous deviendrez comme des dieux. Et Ève a été séduite. Elle a vu que l'arbre avait un fruit qui était beau à voir, qui était bon à manger, et qui était bon pour rendre sage. Et elle en a pris, elle en a mangé. Elle en a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et Adam en a mangé. Et c'était donc à ce moment-là qu'a commencé le malheur sur la terre. Parce que le moment où ils avaient désobéi à Dieu, c'était le commencement de toutes les misères du monde. Premièrement, c'était la perte de leur innocence. Jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient rien sur la conscience. Ils n'avaient rien fait de mal. Ils avaient toujours été soumis à la volonté de Dieu. Et ils avaient une conscience nette et claire. Mais le jour où ils ont mangé de ce fruit défendu, ils ont perdu leur innocence. Et en même temps, ils ont perdu le bien-être dans le sens de la honte qui les a couverts. Ils étaient tellement honteux qu'ils se voyaient pour la première fois nus. Ils ont voulu se couvrir. Avant cela, la honte n'existait pas chez eux. C'était aussi le moment où la crainte est venue dans le cœur des âmes. Il a voulu se cacher de Dieu qui auparavant venait souvent parler avec eux, tenir compagnie avec eux. Mais lorsqu'ils savaient que Dieu allait venir, ils se sont cachés, ils avaient peur. D'ailleurs, Adam a dit « j'avais peur ». Et puis c'était aussi le moment où tous les malheurs que nous connaissons sur la terre ont eu leur commencement. Dans le troisième chapitre de la Genèse, Dieu a dit à la femme, premièrement, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu t'accoucheras, Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Mais Dieu a dit aussi à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. Et c'est à la sueur de ton front, de ton visage, que tu mangeras ton pain. Donc, tout ce que nous voyons de malheur sur la terre a commencé à cause du péché. Et ensuite, Dieu a toujours dit, il avait dit avant, et il le répète, à ce moment-là, que la mortalité sera leur sort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ici, il dit à Adam et à Ève, tu es poussière, tu as été pris de la poussière et tu retourneras à la poussière. Si donc nous pouvons trouver un mot qui explique la raison de tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, toutes les souffrances, toutes les guerres, toutes les injustices, toute la violence, ce mot, c'est péché. C'est le péché qui en a la cause. Mais ce qui est encore pire, même, que ce que nous subissons sur cette terre, c'est que le péché nous a séparés de Dieu. Il y a eu une rupture entre la communion que l'homme avait avec Dieu. Auparavant, Dieu venait souvent avec l'homme, parlait avec lui, il y avait une compagnie, une communion parfaite entre Dieu et sa créature. Mais le temps arrive où cette communion n'existe plus. Lorsque Dieu dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, on peut vraiment se demander qu'est-ce que Dieu voulait dire. Est-ce qu'il voulait dire que l'homme, le jour où il mange de ce fruit, allait immédiatement mourir physiquement? Eh bien, ce n'est pas le cas. Adam a continué à vivre pendant de longs siècles. Il a vécu jusqu'à l'an de 930 ans. Donc, il n'est pas mort physiquement le jour où il a mangé de ce fruit. Oui, il a écopé la sentence de la mort. Il est devenu un être mortel. Mais dans un sens plus spirituel et plus tragique, l'homme est mort ce jour-là. Ce jour-là, toute communion avec Dieu a été coupée. L'homme a été séparé de Dieu. D'ailleurs, à la fin du troisième chapitre, nous lisons que Dieu dit, chassons l'homme du jardin. Nous ne voulons pas qu'il vive continuellement, éternellement, dans le jardin. Chassons-le. L'homme était séparé de Dieu. Et c'est cette séparation d'avec Dieu qui a créé pour l'homme le plus grand malheur. Tous les autres sont rien à côté de ce malheur de ne pas être en communion avec son Créateur. Mais Dieu avait quand même prévu un plan. Même avant la création du monde, même avant que l'homme a été formé de la poussière et placé ici sur la terre, Dieu avait déjà conçu un plan pour la rédemption de cet être déchu. Il dit au serpent qui était l'auteur de ce péché, qui était le tentateur, qu'il serait maudit, qu'il ramperait sur la terre, comme les serpents rampent sur la terre. Et il dit, la semence de la femme, ou la postérité de la femme, te blessera au talon, t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, et le verset 15. Dieu avait donc prévu que l'homme, malgré sa désobéissance, malgré cette séparation d'avec Dieu, pourrait un jour trouver la communion d'avec Dieu. Il pouvait de nouveau avoir une relation avec son Créateur. Plus tard, cette prévision que nous voyons dans le troisième chapitre de la Genèse s'accomplira, comme nous allons voir tout à l'heure. Mais Dieu n'a jamais perdu de vue l'intention qu'un jour l'homme serait rétabli en rapport avec lui. Plus tard, dans le sixième chapitre de la Genèse, l'iniquité de l'homme était devenue tellement sévère, grave, que Dieu a décidé qu'il ne pouvait plus supporter l'homme dans cette iniquité. Il est dit que toute pensée de son cœur se portait continuellement vers le mal. Il a décidé donc la destruction de la terre par un déluge. Seulement, Dieu n'a pas oublié son intention bienfaisante, bienveillante, de racheter l'homme. Il s'est souvenu de cette promesse. Et bien qu'il ait détruit le monde par un déluge, il a conservé quand même la vie dans la personne de Noé, auquel il avait dit de préparer une arche pour se sauver des eaux du déluge. 10 générations plus tard, Dieu a appelé un homme hors de son pays, un homme du nom d'Abraham, pour aller dans le pays qu'il avait promis à cet homme. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc la promesse revêt maintenant une forme un peu plus concrète. Dieu un jour allait bénir le monde par la postérité de cet homme que nous connaissons mieux comme Abraham. Les descendants d'Abraham, après quelque temps, se trouvaient en Égypte. Ils étaient tenus comme des esclaves en Égypte. Mais Dieu a envoyé un homme du nom de Moïse pour les délivrer de cet esclavage. Et après une suite de fléaux envoyés sur le pays d'Égypte pour obliger le pharaon de laisser partir le peuple d'Israël, Dieu a envoyé le dernier fléau qui était la mort de tous les premiers-nés dans les familles égyptiennes. Mais Dieu dit à Moïse que le peuple devait célébrer une fête qui s'appelle la Pâque. Il devait tuer un agneau d'un an, il devait rôtir cet agneau, il le mangeait avec des herbes amères et avec des pains sans levain. Et puis il devait prendre le sang de l'agneau et l'asperger sur les montants et les linteaux de leur porte. Et Dieu dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de plaie lorsque le destructeur frappera le pays d'Égypte. Ainsi, tous les Israélites ont été épargnés à cause du sang qui était versé sur aspergé sur les linteaux et les montants de leur porte. Or, cet agneau était un symbole, une préfiguration d'une délivrance encore plus grande qui nous concerne aujourd'hui. Nous en parlerons un peu plus tard. Ce peuple a été délivré de l'Égypte et Dieu les a conduits dans le désert et leur a donné la loi par Moïse qui s'appelle l'Ancienne Alliance, y compris les 10 commandements, le service du tabernacle, tous les sacrifices, tous les rites, toutes les cérémonies que nous lisons dans les livres de Moïse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais tous ces sacrifices ne pouvaient pas ôter le péché. C'était seulement un souvenir chaque année du péché, comme nous lisons en Hébreu, chapitre 10, à partir du verset 1. L'apôtre dit, la loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, pas la réalité lui-même, pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qui sont offerts, purifier ceux qui s'approchent de Dieu par elle. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus aucune conscience de le péché. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir du péché. Car il est impossible que le sang des boucs et des taureaux ôte le péché. Donc la loi mosaïque a été donnée non pas pour ôter le péché, mais pour donner le souvenir du péché. Et tous ces sacrifices en eux-mêmes ne pouvaient pas enlever le péché. La raison de la loi était, premièrement, pour montrer à l'homme qu'il était incapable de se sauver lui-même. L'homme ne peut pas, par ses actes de justice, il ne peut pas, par ses œuvres, accomplir son salut. Il est impossible. Et s'il y a une chose que la loi nous montre, c'est que l'homme est incapable de se sauver lui-même. En Romains chapitre 8, au verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. La loi ne pouvait pas ôter le péché. C'était impossible. Et pourtant, la loi était nécessaire pour nous montrer combien nous étions dans l'incapacité de nous sauver nous-mêmes. Mais aussi, la loi a été donnée pour servir comme un pédagogue ou comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Comme nous lisons aussi en Galates chapitre 3, l'apôtre Paul, en écrivant concernant la loi, dit aux Galates qui étaient troublés à cause de certains qui voulaient toujours imposer cette loi sur les chrétiens. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? La promesse que Dieu avait faite à Abraham, par exemple, toutes les promesses qu'il avait données au patriarche, est-ce que la loi était contre ces promesses? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, avant la venue de Jésus, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Mais une fois que Christ est venu, une fois que la loi a servi son but et que la foi est venue, eh bien, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Donc, la loi n'a pas été donnée pour durer éternellement, mais c'était donné pour une raison, pour servir une raison spéciale, et une fois que la loi avait accompli son but, elle a été enlevée. Mais pendant cette époque où la loi était toujours en vigueur, Dieu, par ses prophètes, prévoyait une autre dispensation et prévoyait une autre alliance. En Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 31, le prophète de Dieu a parlé d'une nouvelle alliance, non pas comme celle qui a été donnée à Moïse, par Moïse aux Israélites. Ainsi, nous lisons à partir de Jérémie 31, verset 31, « Voici que les jours viennent au rappel de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Oracle de l'Éternel, mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leur péché ou leur faute, et je ne me souviendrai plus de leur péché. La première alliance ne donnait pas cette promesse. La première alliance ne pouvait pas ôter le péché. Mais la nouvelle alliance que Dieu allait donner allait ôter le péché pour toujours. Je pardonnerai leur péché, leur faute, et je ne me souviendrai plus de leur péché. C'était aussi le prophète Isaïe qui a parlé de la venue de celui qui porterait les péchés du monde. Isaïe chapitre 53, à partir du verset 3, en parlant du serviteur de Dieu qui est nul autre que Jésus-Christ, il dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on... Semblable à celui devant qui l'on ne se voit la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, et Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc les prophètes avaient prévu la venue d'un sauveur, un rédempteur. Après en laps de peut-être 400 ans, Dieu a envoyé dans le monde un prophète qui était le dernier des grands prophètes de l'époque ancienne. C'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Il est paru dans le désert de la Judée et son message était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il était comme un messager qui préparait le chemin du Seigneur et qui redressait le sentier pour l'arrivée du Messie. Et Jean-Baptiste, qui disait lui-même « Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas celui qui devait venir, je ne suis qu'une voix qui crie dans le désert. » Mais lorsque Jésus est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste, nous lisons en Matthieu chapitre 3, à partir du verset 15, que Jean, d'abord, aurait voulu empêcher Jésus. Il ne voulait pas le baptiser parce qu'il se sentait indigne. « Je dois être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Mais Jésus lui dit « Qu'il en soit ainsi maintenant, afin que toute la justice de Dieu soit accomplie. » Et Jean l'a baptisé dans le Jourdain. Et en ressuscitant des eaux du Jourdain, l'Esprit de Dieu, comme une colombe, est descendu sur lui. Et une voix du ciel a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et c'est par là que Jean-Baptiste a su que Jésus était celui qui devait venir, que c'était lui, le vrai agneau de Dieu, que c'était lui qui allait ôter le péché du monde. Ainsi, il le dit en Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui, le Fils de Dieu. » Donc Jean-Baptiste était l'avant-coureur de Jésus. Il a préparé le chemin. Il n'était pas le Messie, mais il a reconnu le Messie par le signe que Dieu lui avait donné et il l'a montré au peuple d'Israël en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et lorsque nous voyons Jésus qui a commencé son ministère à partir de son baptême, son ministère public, nous voyons que Jésus a préconisé, il a annoncé qu'il était celui qui allait ôter le péché du monde. En Matthieu chapitre 9, à partir du verset 13, lorsque les pharisiens et les scribes critiquaient Jésus du fait qu'il mangeait avec des pécheurs, avec des collecteurs de taxes, etc., Jésus leur a dit, « Je ne suis pas venu appeler les bons bien portants. Je suis venu appeler ceux qui sont malades. » Jésus est le grand physicien, le grand docteur, et c'est lui qui est venu pour sauver le monde. En Luc chapitre 19, verset 10. Encore, lorsque Jésus a été critiqué parce qu'il est entré chez un homme collecteur de taxes du nom de Zachée, a dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Et Jésus lui-même, en parlant à Nicodème, lui a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Non, le monde était déjà jugé à cause du péché. Il est venu, il l'a envoyé pour sauver le monde. Jésus est venu comme la solution du problème du péché. Il est venu pour ôter le péché. Il est venu pour nous sauver du péché et de toutes ses conséquences. Mais Jésus savait que pour accomplir cette tâche, il devait donner sa propre vie. Ainsi, en Matthieu chapitre 20, verset 28, Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner ma vie en rançon de plusieurs. Et en Jean, chapitre 10, en changeant un peu la figure, ici ce n'est plus l'agneau, mais c'est le berger, il dit, je suis le bon berger, et je donne ma vie pour mes brebis. Il le répète aussi, plus loin dans le même chapitre, je donne ma vie pour mes brebis. Effectivement, Jésus a été condamné par les Juifs, par les conducteurs parmi les Juifs. Il a été aussi condamné par Ponce Pilate à la mort de la croix. Et Jésus a été cloué à la croix. Je pense qu'ici, nous commençons à voir le dénouement de tout ce qui avait été prévu et tout ce qui avait été prédit dans les Écritures de l'Ancien Testament. C'est ici, sur la croix, que le talon de Jésus a été blessé. Oui, il a été mis à mort, mais ce n'était pas pour rester dans le tombeau. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Et en ressuscitant d'entre les morts, il a donné le coup de grâce à Satan. Il a donné le coup mortel à Satan. Satan peut-être jusqu'à ce jour-là croyait pouvoir avoir le dessus. Mais à partir de la résurrection de notre Seigneur Jésus, Satan sait qu'il est voué à la destruction. Il le sait. Il veut tirer avec lui tout ce qu'il peut dans l'enfer. Mais Satan sait qu'il sera un jour jeté dans les temps de feu et de soufre. Jésus a donné à Satan la blessure mortelle par sa résurrection d'entre les morts. C'est ici que la promesse d'Abraham commence à voir son accomplissement. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et c'est par la suite à la mort et à la résurrection de Jésus que l'évangile de grâce et de salut est annoncé à toutes les nations du monde. C'est ici que nous voyons que l'agneau dont le sang a été aspergé sur les montants et les linteaux des portes des Israélites trouve son accomplissement en Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oui, il a été sacrifié, mais son sang est devenu le moyen de notre purification et de notre délivrance de l'ange destructeur. En Colossiens, chapitre 2, verset 14, nous voyons que la mort de Jésus a été aussi le moment où la loi a trouvé son accomplissement et que cette nouvelle alliance qui a été prédite par le prophète Jérémie commence. En Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14, l'apôtre dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires, il a supprimé, ça c'est l'ancienne alliance, il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, et pour une question de fête, de nouvelle lune, de sabbat. Tout cela était une partie de l'ancienne alliance. Et Paul dit, personne n'a plus le droit de vous juger au sujet de ces choses aujourd'hui. Tout cela, dit-il, n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est en Christ. Donc la loi mosaïque a trouvé son aboutissement en Jésus. En Romains chapitre 10, au verset 4, nous lisons que Jésus-Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Il est la fin de la loi dans les deux sens de la fin. Il était non seulement, il mis fin en clouant la loi à la croix, mais il était la fin dans le sens qu'il était l'aboutissement de la loi. C'était vers lui que la loi avait pointé depuis toujours. Et c'est ici, sur la croix, que Jésus peut dire ainsi, tout est accompli. Il avait accompli tout ce que la loi avait prévu. Il avait accompli toutes les promesses de Dieu. Il avait accompli la rédemption de la race humaine, pour ceux qui croient. Ainsi Jésus peut dire après sa résurrection à ses apôtres en Luc chapitre 24, à partir du verset 44, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Nous pouvons aujourd'hui, nous avons l'avantage aujourd'hui de comprendre et de voir ce que ceux qui vivaient sous la loi ne pouvaient pas comprendre. Jésus a dit même à ses disciples une fois, « Bénis vos oreilles, parce que vous entendez des choses que ceux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas comprendre. » Des rois, des prophètes ont voulu chercher ces choses. Ils n'ont pas vu, compris. Mais vous avez l'avantage, et nous, encore davantage, nous avons la possibilité de comprendre tout ce qui a été prévu par Dieu à travers l'Ancien Testament. Donc Jésus a accompli toute l'intention de Dieu. Il a accompli le but de l'Éternel par sa mort et par sa résurrection d'entre les morts. Après la résurrection de Jésus, il a donné à ses apôtres la charge d'aller porter la connaissance de ce qu'il avait fait, du salut qu'il avait procuré pour nous. Allez, leur dit-il, parmi toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et les apôtres, en prenant ce message de salut, de grâce, ont porté la connaissance de l'amour de Dieu au monde entier. Il leur a envoyé en leur disant, selon Marc chapitre 16, versets 15 et 16, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Ils ont commencé cette œuvre d'évangélisation au jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus, ils ont commencé à prêcher l'Évangile. Au jour de la Pentecôte, lorsque les hommes avaient entendu la prédication de Pierre, leur disant que ce Jésus qu'ils avaient mis à mort était réellement le Christ, que c'était réellement le Messie qu'ils attendaient, ils ont crié, « Âme, frère, que ferons-nous ?» Et Pierre leur a dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse, dit-il, est à vous et à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc, ce que Jésus a donné à ses disciples comme évangile comprend non seulement ce que Jésus a fait, mais il comprend aussi ce que nous devons faire pour avoir la bénédiction de sa mort et de sa résurrection d'entre les morts. Et ce que Pierre a dit au jour de la Pentecôte est toujours valable pour nous aujourd'hui. C'est pour eux, mais c'est pour nous qui sommes au loin. Oui, nous ne vivons pas dans la ville de Jérusalem, nous ne vivons pas en Palestine, et nous ne vivons pas au premier siècle, mais comme Pierre a dit, cette promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Il est à nous, non seulement de croire ce que Dieu a fait, le salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ, pour avoir le pardon de nos péchés, pour avoir une vie nouvelle en Christ, pour avoir une espérance qui s'étend jusque dans l'éternité, mais aussi de répondre par cette soumission à la volonté de Dieu, par le repentir, par le baptême en son nom, étant plongé dans les eaux du baptême, pour que le sang de Jésus nous lave de nos péchés.